La marche du monde, Valérie Nivelon.
Bienvenue de votre émission consacrée cette semaine à la figure la plus iconique de toutes les indépendances africaines. Adulée par beaucoup, conspuée par certains, le premier ministre de la République du Congo, Patrice Lumumba, est devenu une référence internationale.
La République du Congo a été proclamée et notre cher pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Ensemble, mes frères, mes sœurs, nous allons commencer une nouvelle lutte, une lutte sublime qui va mener notre pays à la paix, à la prospérité et à la grandeur. Nous allons établir ensemble la justice sociale et assurer que chacun reçoive la juste rémunération de son travail. Nous allons montrer au monde ce que peut faire l'homme noir quand il travaille dans la liberté. Et nous allons faire du Congo le centre de rayonnement de l'Afrique tout entière.
La voix de Patrice Lumumba dans son célèbre discours du 30 juin 1960, applaudi à deux mains par les Congolais. Discours où Lumumba a également rappelé l'horreur et la violence de la colonisation belge. Patrice Emery Lumumba, auquel la revue d'histoire contemporaine de l'Afrique consacre son 5e numéro, afin de comprendre les mécanismes de construction internationale d'une figure politique africaine mondialement connue, notamment en raison de son assassinat. Lumumba est un phénomène, écrivent nos deux invités historiennes Elisabeth Dikiseko et Karine Ramondi. Et ce phénomène attire leur attention car il s'observe sur plusieurs continents comme autant de faits historiques de la vie et de la mort du nationaliste congolais. Lumumba médiatisé, Lumumba assassiné, Lumumba manifesté, Lumumba commémoré, de Paris à Kinshasa en passant par Pékin ou Accra. Lumumba sans cesse recréé par les artistes au Congo et à l'étranger. Lumumba, phénomène global, à jamais imprimé dans les mémoires politiques, populaires et culturelles, transmises à ses héritiers lumumbistes. Global Lumumba, retour sur la construction d'une icône internationale, c'est à découvrir dans le dossier numéro 5 de la revue d'histoire contemporaine de l'Afrique. Et c'est tout de suite sur RFI. Global Lumumba, la une de la marche du monde et de la revue d'histoire contemporaine de l'Afrique, en libre accès sur Internet avec mes deux invités, Elisabeth Dikiseko de l'Institut des mondes africains. Bonjour.
Bonjour Valérie.
Et Karine Ramondi du CIRIS Paris Panthéon Sorbonne. Bonjour.
Bonjour Valérie.
Karine, j'ajoute que vous êtes présidente du volet de recherche de la Commission sur le rôle et l'engagement de la France dans la lutte contre les mouvements indépendantistes et d'opposition au Cameroun de 1945 à 1971. Et nous aurons bien sûr l'occasion d'en reparler dans la marche du monde. Alors, quelle est l'histoire de ce dessin signé par Justin Kasareka, artiste plasticien basé à Goma en RDC et diplômé de l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa? Ça. Karine Ramondi.
C'est toute une histoire ce dessin, puisque c'est vrai que Justin Kasareka nous a fait l'amitié de nous autoriser à l'utiliser pour illustrer magnifiquement notre numéro sur Global Lumumba. Tout simplement, c'est une rencontre assez fortuite. En 2013, je suis au Chambord Center à New York pour finaliser des recherches justement sur Lumumba, auquel j'ai consacré une partie de ma thèse. Et puis, sur le chemin, je décide de marcher entre ce quartier du Chambord Center et puis pour rejoindre Central Park. Et sur le chemin, on me distribue un flyer qui informe de la 5e édition du Congo in Harlem, une édition, un festival de cinéma et de débat. Et je tombe en arrêt sur ce flyer et sur ce dessin que je trouve absolument magnifique, Je le mets dans ma poche et je le garde en me disant, tiens, j'en ferai quelque chose un jour. Et il se trouve que voilà, ce dessin est à la une de notre numéro. Et j'avoue que la boucle est bouclée. On était sur le boulevard Malcolm X. Je trouve que c'est un beau pied de nez, une jolie histoire pour quand entamer cette émission.
C'était un signe, Elisabeth Dikiseko.
Oui, c'est un signe qui éclaire une histoire assez importante, l'histoire des connexions entre la diaspora noire américaine et le Congo. Cette histoire, elle trouve ses racines même à la fin du 19e siècle. C'est ce que je montre dans ma thèse, que déjà lors de la colonisation du Congo, il y avait ce regard de la diaspora noire américaine sur le Congo. Il y a eu déjà une production de pamphlets, production d'écrits, des circulations même de ces Afro-Américains vers le Congo pour voir ce qui s'y passait. Une condamnation déjà de la colonisation sous Léopold II. Et on trouve, et il y a un fil conducteur comme ça qui est vraiment très intéressant, puisque au moment de l'assassinat de Patrice Lumumba, la figure que vient de nommer Karine, la figure de Malcolm X, cette figure très importante du Black Power, de la radicalité politique noire, va également s'exprimer sur l'assassinat de Patrice Lumumba, qui va pointer l'appétit et les rivalités européennes autour des ressources du Congo, mais également le rôle des Américains dans l'assassinat de Patrice Lumumba. Et ce fil conducteur va même au-delà des années 60, puisqu'on retrouve même dans le rap afro-américain, dans le rap des années 90, des mentions, des références à Patrice Lumumba. Et Lumumba est cité aux côtés de figures telles que Malcolm X et Marcus Garvey. Donc vraiment, ce fil conducteur est très intéressant.
Et cette image, on peut la découvrir sur la chaîne YouTube de RFI, puisque cette émission est filmée et disponible sur notre chaîne YouTube. Donc le portrait de Justin Kasereka de Patrice Lumumba. Alors pourquoi cette image plutôt que celle, par exemple, du mémorial Lumumba à Kinshasa, place de l'échangeur, dominée par la statue de Lumumba, Karine Ramondi?
Parce que je pense que c'est toujours intéressant, à partir d'une image, de montrer aussi comment les artistes s'emparent de la figure, de montrer comment des jeunes au Congo continuent à rêver et que Lumumba reste une source d'inspiration. Je pense qu'une figure, enfin une photographie du mémorial aurait été peut-être un peu plus figée et un peu moins. D'autant plus qu'on ne peut pas dire que les statues qui sont à l'effigie de Lumumba sont des grandes réussites en règle générale.
Karine Ramondi, il faut rappeler le destin exceptionnel de Patrice Lumumba, qui est d'abord celui d'un évolué, sachant qu'à l'époque, seulement 217 cartes d'immatriculation ont été attribuées par le colon belge. À l'époque, il y a 14 millions de sujets, c'est le vocabulaire de l'époque, hein, au Congo. Qu'est-ce que ça signifie être évolué?
Alors c'est toujours une gageure de résumer un portrait biographique d'une personnalité comme ça en quelques faits. Mais ce qui est sûr, c'est que avant d'être un évolué, je dirais que Lumumba est un autodidacte. C'est un autodidacte qui vient d'un milieu défavorisé et donc qui s'est fait par lui-même. Donc c'est ce qu'on appelle un self-made man. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on retient sa période en tant qu'évolué. Alors un évolué, c'est quelqu'un qui est en effet, comme vous l'avez dit dans le vocabulaire de l'époque, immatriculé, ce qui est absolument terrifiant comme terminologie, mais ce qui montre bien encore le vocabulaire colonial de l'époque, et à tel point il était rabaissant pour les personnes concernées. Un évolué, c'est quelqu'un qui navigue entre ces deux mondes, entre le monde dit indigène, entre les personnes qui vivent en Afrique, qui sont ce qu'on appelle les autochtones, et puis ceux qui sont les colons et au destin auquel certains aspirent. Et véritablement, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit à travers sa trajectoire, à partir de 1948, il se dessine comme journaliste, puis ensuite, en 1954, il entame véritablement, oui, une carrière politique en tant qu'évolué, puis il va évoluer dans sa trajectoire, puisqu'au début, il apparaît comme relativement timoré en termes d'engagement politique pour certains. J'essaie de faire simple et de faire un peu didactique. Et puis, peu à peu, il va se trouver un chemin politique à travers certaines rencontres. Il va devenir, à partir des émeutes, des événements violents de Stanleyville en janvier 59, un des interlocuteurs. Il va s'imposer comme un des interlocuteurs des autorités coloniales belges à l'époque. Et puis, il va peu à peu rencontrer un certain nombre de personnalités, dont notamment Kwame Nkrumah. En octobre 58, il a lancé le Mouvement National Congolais, qui est le parti avec lequel il sera d'ailleurs élu en tant que Premier ministre en mai 1960. Et puis, de ces rencontres, notamment à la fameuse conférence des peuples africains d'Accra, qui a lieu en décembre 58, il s'ouvre là à un autre espace, un espace panafricain, qui va lui amener à peu à peu affiner sa pensée politique dans ce qu'on appelle le lumumbisme, qui a été évoqué tout à l'heure par Elisabeth, et s'imposer comme l'un des grands interlocuteurs des Belges au moment de la table ronde de janvier 1960.
Alors vous avez cité Nkrumah, donc le Ghana, premier pays africain indépendant. Et c'est vrai que pour Patrice Lumumba, c'est un choc que de rencontrer Nkrumah au Ghana.
Je suis convaincu qu'il est dangereux pour accéder à l'indépendance
Kwame Nkrumah
d'attendre plus longtemps que le Royaume-Uni fasse ce qu'il a à faire. Il est temps qu'émerge un État africain indépendant qui prenne lui-même des initiatives.
Le premier ministre du premier État décolonisé d'Afrique, Kwame Nkrumah, impressionne fortement Patrice Lumumba. Qu'est-ce que cette conférence des peuples africains d'Accra en 58 apporte à Lumumba, Elisabeth Dikiseko?
Oui, donc le Ghana, en tant que premier pays d'Afrique subsaharienne à obtenir son indépendance, ambitionnait vraiment de devenir la référence sur le panafricanisme. On disait même que le Ghana était la Mecque du panafricanisme. Ce qui est intéressant pour la diplomatie ghanéenne, c'était d'attirer les nationalistes qui se trouvaient en Afrique centrale et en Afrique australe vers Accra pour les accompagner dans le processus de décolonisation et implanter l'idéologie du panafricanisme en Afrique, puisque ces nationalistes se rencontraient dans différents lieux, dans des points, on va dire, dans des lieux critiques anticolonialistes, que ce soit à Paris, que ce soit à Londres, à Bandung, mais les Ghanéens n'avaient jamais rencontré de Congolais. Donc le Congo suscitait vraiment un intérêt pour la diplomatie ghanéenne, donc dans ce projet de diffusion du panafricanisme. Et donc Lumumba se retrouve à Accra avec deux autres nationalistes, Ngalula et Diomi, en décembre 1958. Et là, il va prendre vraiment la mesure de ce projet décolonial et il va comprendre qu'il y a une autre voie que celle de la communauté belgo-congolaise, qu'il y a en fait des nationalistes qui réfléchissent à des projets décoloniaux plus ambitieux. Et à partir de là, Lumumba va vraiment esquisser une nouvelle pensée qui sera donc beaucoup plus révolutionnaire. Il va vraiment fixer ses idées politiques sur la ligne nkrumahiste.
C'est-à-dire, Elisabeth, au fond, l'indépendance.
Oui, c'est-à-dire une indépendance totale, c'est ça.
Des droits pour les Africains aussi à disposer des richesses, bien sûr, de leur territoire. Oui. Au fond, l'internationalisation et la panafricanisation de la figure de Lumumba commencent du vivant de ce dernier, avec un discours appuyé sur l'unité des peuples du Congo.
Indépendance, tcha-tcha, tozoumiye, okipwaza.
Indépendance Tcha-Tcha, la chanson de l'African Jazz devenue fétiche des indépendances africaines, ne protégera pas Lumumba, assassiné pour ses idées le 17 janvier 1961, en pleine crise congolaise.
Inter, actualité.
Au micro Jacqueline Baudry. Nous avons appris une nouvelle tragique, une nouvelle qui n'est pas tellement une surprise tant les rumeurs étaient nombreuses qui la faisaient pressentir. Il s'agit de la mort de M. Lumumba et de ses deux compagnons d'évasion, M. Okito, ancien président du Sénat, et M. Mpolo, ancien ministre de la Jeunesse. Nous allons donc essayer de savoir quelles sont les premières réactions. À vous donc, Elisabeth Ville.
M. Munongo a affirmé avec force qu'il ne s'agissait pas d'une machination et que les trois fugitifs n'ont pas été proprement assassinés par les autorités katangaises. Il a ajouté, je pense que les amis du communiste Lumumba soulèveront au Conseil de sécurité la question de cette triple mort, mais d'avance, je dénie à l'ONU le droit de prendre position sur cette question.
Nous allons appeler nos correspondants et nous commencerons bien sûr par notre correspondant à Brazzaville qui va nous dire quelle est la situation ce soir à Léopoldville.
Tandis que le monde entier réagit à l'annonce de la mort de M. Lumumba, Léopoldville, elle, reste d'un calme surprenant. De Stanleyville à Lumumbiste, on ne sait rien, sinon par le canal des Nations Unies, dont le porte-parole a révélé qu'hier soir, un groupe de soldats qui voulait exercer des représailles sur la population européenne a été harangué et calmé finalement par le général Lundula. Au Katanga, les villages brûlent dans la région de Luena. Pendant ce temps, comme je vous le disais hier, le mythe de la disparition et le refus de croire à la mort de Lumumba a pris son vol. Bref, l'extraordinaire cirque congolais poursuit ses numéros de magie noire. Ici Brazzaville, Radiodiffusion Télévision Française, à vous Paris.
Merci Brazzaville. Alors l'assassinat de Patrice Lumumba et de ses deux compagnons, Okitam Polo, c'est aussi la destruction physique de son corps. Pourquoi, Karine Ramondi, cet assassinat peut être considéré, du point de vue des historiens, comme l'assassinat majeur au XXe siècle ?
Tout simplement parce que, on l'a vu, l'internationalisation de la figure de Lumumba, ses nombreux déplacements, la façon dont qu'il a eu de mobiliser aussi les diverses instances internationales, de se déplacer dans le peu de temps qui lui a été donné, puisqu'il est resté quand même peu de temps au pouvoir, a fait de lui, par son charisme aussi, par ce qu'il représente, par la façon dont il transperce les médias de l'époque, par le ton de son discours, par sa personnalité, par son image. Tout ceci, évidemment, a fait que cet événement, qui aurait pu rester un événement africano-centré, est devenu un événement très important. Et tout simplement aussi, peut-être, parce que cette figure a fait l'objet, comme je l'ai montré dans mes travaux, notamment doctoraux, d'un certain nombre de processus d'assassinat, un assassinat médiatique, un assassinat judiciaire, un assassinat politique. Et comme tout ceci n'a pas suffi, il a fallu aussi détruire le corps, le dissoudre dans la soude, afin que définitivement ce qu'il représentait en termes d'idées, en termes de charisme, disparaisse. On met à peu près un mois à officialiser son véritable décès, puisque c'est en février 61 que Mungo prend la parole pour dire qu'en effet, il semblerait que cette personne soit décédée, que c'est évidemment pas du tout la faute des Katangais, ce qui est complètement faux. Mais ça montre bien comment tout ce processus ressurgit, et c'est ce qu'on montre bien dans le numéro aussi, hein, médiatiquement dans les différents pays africains qui vont s'emparer justement de cette chute lente finalement de Lumumba en politique, tout simplement parce que à partir du 5 septembre, il n'est plus aux affaires, 1960, il n'est plus aux affaires, il est révoqué par le président de l'époque qui est Kazavubu, et donc en fait il disparaît peu à peu de la scène politique en résidence surveillée, et donc on voit bien comment finalement, avec son odyssée, il s'échappe donc pour essayer d'échapper à ses ravisseurs et à ceux qui en veulent à sa vie, puisqu'il a conscience que les choses vont mal finir pour lui rapidement. Eh bien, on voit bien comment tout ceci cristallise l'attention des jeunes, des étudiants, des médias, des journaux, des autres leaders africains, des leaders anticolonialistes en dehors de l'Afrique subsaharienne, comme Nasser, par exemple, et puis aussi les leaders du FLN. Et on voit bien comment tout ceci prend de l'importance.
Et nous sommes, Elisabeth, en pleine guerre froide, et cette dimension géopolitique qui est extrêmement importante dans le cadre de cet événement que vous nommez un événement monde.
Oui, on reprend l'expression de l'historien Sirinelli et elle nous permet vraiment d'étudier les différents foyers de contestation où on a observé des cris d'indignation à la suite de l'assassinat de Patrice Lumumba. Et ce qui est très intéressant pour nous, historiennes, c'est d'observer que ce phénomène, en fait, protéiforme, a eu lieu sur plusieurs continents, ce qui confère vraiment cette dimension internationale, cette dimension globale. Donc que ce soit Harlem,
à New York. Harlem, c'est le quartier noir de New York.
Que Patrice Lumumba avait visité, dans lequel il avait tenu des discours importants, et donc il y avait bien cette liaison afro-américaine-Congo. Que ce soit à Paris, que ce soit à Londres, que ce soit en Allemagne, et comme Karine l'a dit, également en Afrique, mais également en Chine, comme on le montre dans ce numéro. Donc tous ces foyers, ces lieux de contestation multi-situés, nous permettent vraiment de montrer que Lumumba est un repère générationnel. C'est un repère politique qui est très fort pour plusieurs générations et ceci sur plusieurs décennies.
Elisabeth, Patrice, Emery Lumumba, iconique. Lumumba, c'est le nom qui reste, Lumumba. Et c'est un nom de famille qu'il s'est inventé lui-même.
Oui, c'est vrai que ce n'est pas son véritable nom. Et il s'est construit une image, il s'est construit une figure. Et ce nom est resté dans les mémoires de plusieurs générations. Et ce nom est constamment mobilisé dès lors que le territoire congolais est en proie à une déstabilisation ou bien que sa sécurité est en jeu. On voit bien comment la jeunesse récupère, instrumentalise le nom de Lumumba parce qu'il incarne bien ce processus de décolonisation qui n'est pas achevé, qui a été empêché.
Et pour mesurer toute la dimension internationale de l'icône Lumumba, il faut se plonger dans les archives de l'INA pour écouter ensemble les manifestations de réaction suite à son assassinat en janvier 1961.
La nouvelle de l'assassinat de Patrice Lumumba a fait naître un peu partout dans le monde des manifestations de protestation. Manifestations inspirées, protestations dirigées sans contredit. Tous ces cortèges, ceux de Londres comme ceux de Moscou, avaient un but identique, l'ambassade de Belgique. À Moscou, cependant, M. H était également rendu responsable du sort du leader congolais. Mais après le Caire, c'est Belgrade qui a sans doute vu l'assaut le plus violent mené contre l'ambassade de Belgique. La police a dû faire appel aux lances des pompiers pour tenir en respect les manifestants. Au Conseil de sécurité des Nations Unies, M. H a été tour à tour vilipendé par M. Zorin, soutenu par M. Stevenson. Débat orageux que devait d'ailleurs interrompre une manifestation de Noirs américains assortie de bagarres et de hurlements. On n'avait jamais vu cela aux Nations Unies.
À Paris aussi, manifestation dont l'objectif était l'ambassade de Belgique, rue Tilsit. Participaient à cette manifestation des étudiants africains et des représentants d'organisations d'extrême gauche. Notre reporter Philippe Réal était là avec le micro d'Interactualité.
Il est 16h20 actuellement. Violente manifestation sur les Champs-Élysées aux abords de l'Étoile. Les agents se sont massés maintenant dans le milieu de l'avenue de Wagram. Il va certainement y avoir un choc. Tout le monde court. Je vois marqué sur les pancartes « Assassin, non au colonialisme ». Et les agents chargent. Les agents chargent, ça y est, premier matraquage. Ça devient très violent maintenant. Les agents chargent, les manifestants reculent. C'est une course maintenant, les manifestants passent derrière les voitures, les agents les matraquent, les pancartes sont arrachées, des débris jonchent le sol et c'est fini, les manifestants sont repartis en courant, les agents, la police maintenant est maître de la place. Il y a évidemment un grand embouteillage ici, place des Ternes, mais il ne reste pratiquement plus rien de la manifestation. Messieurs, vous manifestiez tout à l'heure. Vous êtes étudiant à Paris ?
Oui, je suis étudiant. Je suis étudiant en sciences à Paris.
Oui, vous êtes de quel pays ?
Je suis du Dahomey.
Du Dahomey. Et vous manifestiez aujourd'hui pour quelle raison ?
Manifestions parce que Patrice Lumumba a été incarcéré et il est mort, on ne sait pas comment. Alors les étudiants africains ont manifesté le désir de manifester pour montrer leur mécontentement.
Oui. Vous vouliez manifester où ?
Oh, il était dit qu'on manifesterait à l'ambassade de Belgique.
L'ambassade de Belgique qui est rue de Tilsit. Hein.
Nous sommes en 1961, des manifestations dans le monde entier. Les étudiants africains manifestent à Paris, à l'ONU. Les manifestants noirs rentrent dans l'hémicycle. On n'a jamais vu ça de mémoire de journaliste. On n'est pas du tout en 68, on est vraiment en 61. On est en pleine guerre froide. Karine Ramondi, est-ce que ces réactions internationales à l'assassinat de Patrice Lumumba disent aussi quelque chose de cette confrontation Est-Ouest, URSS, USA, sur le terrain africain ?
Écoutez, déjà, merci beaucoup, parce que c'est vrai que je crois qu'on s'est regardé avec Elisabeth et on n'a jamais entendu cette archive, ni on n'a même jamais envisagé en tant que telle. On voit bien comment la radio laisse place à l'imagination avec tous les sons et l'intervention de cet étudiant de l'actuel Bénin. Oui, bien sûr, parce qu'on voit bien comment les étudiants s'emparent de cette question. Et en fait, on est dans une réalité augmentée, en fait, à cette époque-là, parce qu'en fait, Lumumba ne s'est jamais dit communiste. Et en fait, dans ce conflit qu'est la guerre froide, il faut forcément, pour les deux grands, URSS et États-Unis, une lecture binaire. C'est-à-dire, tu es avec moi ou tu n'es pas avec moi. Et en fait, quand on incarne autre chose, ce qu'on pourrait appeler un neutralisme positif, comme Lumumba l'a évoqué, quand on incarne le lumumbisme, on a aussi le droit d'avoir sa propre façon de raisonner politiquement. Mmh. Est-ce qu'on est obligé forcément de s'aligner à des idéologies qui sont prégnantes à l'époque? La réponse est non. Et justement, c'est ça la grande force de ces leaders africains qui incarnent aujourd'hui quelque chose, c'est qu'à l'ONU, certains existent parce que leur pays est indépendant et qu'ils y ont leur voix. C'est le cas de Kwame Nkrumah. C'est
avec
le cas,
Ghana.
Tout à fait. C'est le cas de Nasser avec la République arabe unie de l'époque. Mais globalement, il faut savoir qu'on a là une grille d'analyse qui va complètement étouffer politiquement les leaders, parce que c'est une grille d'analyse qu'il aurait imposée. Et qui va finalement incarner la circulation des idées quand ces personnes vont être réduites au silence, ou emprisonnées, ou en exil? Eh bien, c'est les étudiants. Et les étudiants qui, par un système de bourse, dans ce qu'on appelle les empires coloniaux, circulent énormément et vont alimenter justement l'après assassinat.
Alors nous avons entendu à quel point il y a une déferlante de réactions politiques, de réactions passionnelles autour de l'assassinat du premier ministre du Congo indépendant. Mais en même temps, on n'a jamais évidemment pu savoir ce qu'il aurait réellement mis en place, s'il avait pu exercer le pouvoir, sachant qu'à l'époque, encore une fois, il est accusé d'être un communiste. Je le rappelle, on est en pleine guerre froide. Alors est-ce que c'est un facteur important de la construction du phénomène Lumumba, Karine Ramondi, le fait finalement qu'on ne sait pas très bien ce qu'il aurait fait?
Écoutez, ça contribue évidemment, quand on est arrêté en plein dans son élan politique, ça contribue à rendre la figure charismatique, un peu mystique, on pourrait dire même. C'est-à-dire que quand on meurt à l'âge du Christ, ou de celui qui est appelé Jésus-Christ, comme on dit, eh bien forcément, ça peut avoir une incidence sur la façon dont on va percevoir l'image de Lumumba. Et puis, il faut rappeler, je l'évoquais brièvement tout à l'heure, mais Lumumba est resté finalement véritablement aux affaires entre juillet et août 60. C'est-à-dire, il y a 2 mois où il exerce ses fonctions. Et pendant ces 2 mois, il y a une avalanche de problèmes à gérer, alors que se met en place la jeune République du Congo. On pourrait évoquer la mutinerie de la force publique, c'est-à-dire les forces militaires qui sont chargées du maintien de l'ordre colonial belge, qui vont évoluer vers une africanisation de militaires. Il y a 2 sécessions, du sud de Katanga d'abord, puis ensuite du sud Kasaï, qu'il va falloir gérer, alors que même les problèmes s'accumulent pour cette jeune République du Congo. Et en fait, c'est vrai qu'on ne sait pas ce que Lumumba serait devenu.
Elisabeth, est-ce que Lumumba, qui est donc un fervent défenseur de l'unité congolaise, unité qui explose, ne subit pas aussi les attaques très personnelles de ses ennemis politiques? À ce moment-là, on a beaucoup parlé de l'extérieur, des Belges, des Américains qui s'associent avec les Katangais pour assassiner Lumumba, mais il y a aussi toutes ces divisions internes, et je pense aussi à son frère ennemi, cofondateur du mouvement national congolais, Albert Kalonji. On n'a pas le temps de passer l'archive, mais il traîne littéralement Lumumba dans la boue. Il l'accuse de tous les maux. Il l'accuse surtout d'être un dictateur en puissance.
Oui, je pense que c'est très intéressant aussi d'éclairer les forces antagonistes à l'intérieur du territoire congolais. Cette lutte entre nationalistes congolais qui ne sont pas d'accord. Lumumba qui porte un projet unitaire, donc un projet qui considère que toutes les provinces du Congo doivent être unies et qu'il ne faut pas aller vers une fédération, tandis que, par exemple, les nationalistes de la Bako sont beaucoup plus portés par un projet d'autonomie du Bas-Congo, ou encore de façon beaucoup plus radicale les nationalistes du Katanga qui proclament une indépendance très rapidement après l'indépendance du Congo. Et comme vous venez de le faire remarquer, à l'intérieur du MNC, donc de ce mouvement nationaliste congolais, très tôt il y a deux voies qui vont en fait être définies, donc le MNC Lumumba et le MNC Kalonji. Et dans ce numéro, on était très contents de pouvoir éclairer la figure justement de ces nationalistes du MNC Kalonji, du Sud Kasaï, qui eux également vont s'opposer à Lumumba alors qu'ils avaient fondé le MNC ensemble. Et on a par exemple un très beau documentaire donc, qui est réalisé par Alain Kassanda, qui est donc le petit-fils d'un nationaliste congolais qui s'était opposé à Lumumba. Et les conversations très intéressantes, les échanges très intéressants entre Alain Kassanda et son grand-père sont d'autant plus marquants et d'autant plus touchants parce que pour Alain Kassanda, Lumumba est une figure d'importance. Donc on voit bien comment deux générations-là s'affrontent, ne portent pas du tout le même regard sur Patrice Lumumba.
Mais alors justement, quel est le reproche principal de celui que j'appelle son frère ennemi, Albert Kalonji, puisqu'ils ont fondé ensemble ce mouvement national congolais, donc un mouvement unitaire. D'un mot, quel est le reproche principal de Kalonji à Lumumba ?
Je pense qu'il y a plusieurs choses, qu'il n'y a pas forcément une cause unique, mais il y a déjà ce charisme de Patrice Lumumba qui fait que c'est la figure qui est prédestinée donc à diriger le Congo. En plus, c'est une figure qui très tôt va s'internationaliser et qui va être soutenue par des puissances.
Non, c'est quoi, c'est de la jalousie après.
Je pense qu'il y a plusieurs choses, c'est-à-dire que la politique réveille des instincts qui sont quand même des narcissiques, il y a des égocentrismes, il y a également le projet politique qui n'est pas le même. Même si, par exemple, la loi fédérale permettait aux provinces une certaine autonomie, il faut prendre en considération les personnalités, il faut faire une psychologie du pouvoir, mais il faut aussi prendre en considération le fait que ce ne sont pas les mêmes projets politiques qui sont défendus.
Alors, reste que Lumumba a de multiples héritiers et héritières. C'est ce que vous montrez également dans ce numéro 5 de la Revue d'Histoire Contemporaine de l'Afrique, Global Lumumba, de multiples héritiers et héritières, comme le chante Myriam Makeba. C'est toujours un bonheur, vous êtes bien sur RFI à l'écoute de Myriam Makeba. Elle chante le nom de Lumumba en hommage au grand leader africain, un nom devenu le prénom de son petit-fils.
Il faut parler de Patrice Lumumba, ce n'est pas un hasard si votre petit-fils s'appelle Lumumba.
Oui, Lumumba est né le 4 avril 1968 aux États-Unis. J'étais en Californie, sa maman était à New York. On m'a téléphoné pour dire que tu as eu un petit-fils et sa maman lui a donné le nom de Lumumba. En même temps, j'ai eu un coup de fil pour m'annoncer que le docteur Martin Luther King est décédé, même jour, même nuit que lui. Et sa maman a décidé de lui donner le nom d'un grand homme. En Afrique, elle a choisi Lumumba.
Document si touchant, extrait de la RTS, la radio-télévision suisse, Elisabeth Dikiseko. C'est vous qui m'avez fait découvrir cette petite vidéo, preuve de l'héritage politique et culturel lumumbiste, dans lequel s'inscrit la grande Myriam Makeba, qui a passé beaucoup d'années en Guinée notamment. Qu'est-ce que vous retenez de ce document et pourquoi vous avez voulu le partager avec les auditeurs de RFI ?
Alors, la grande Myriam Makeba, c'est une figure tellement importante de l'histoire de la décolonisation. Et en même temps, elle a un lien particulier avec Patrice Lumumba. Comme elle le dit très bien dans cette vidéo, son petit-fils naît le 4 avril 1968, date à laquelle une grande figure des mouvements des droits civiques aux États-Unis, Martin Luther King, décède.
Assassiné.
Décède, oui, à la suite d'un assassinat aux États-Unis. Et bizarrement, ce petit-fils ne s'appelle pas Martin Luther King, mais on lui donne le nom de Patrice Lumumba, ce qui montre bien que finalement l'assassinat de Patrice Lumumba, même des années après, continue de choquer, d'indigner, et qu'il y a une sensibilité très forte des figures du panafricanisme ou de la décolonisation telles que Myriam Makeba pour ce personnage. Et ça permet aussi de genrer cette histoire-là, de montrer, comme vous l'avez dit, des héritières, des femmes qui ont également réfléchi à Patrice Lumumba, qui ont également exprimé une indignation, que ce soit sous la forme poétique ou que ce soit sous la forme artistique.
La lutte musicale continue. On va en parler du point de vue politique, mais aussi du point de vue de la famille même, hein, des descendants, garçons et filles. Hein, je pense à Juliana Lumumba, que je salue. Une lutte qui est aussi une lutte personnelle pour les enfants de Patrice Lumumba, qui pendant des années ont réclamé, Karine Ramondi, les restes humains de leur père à la Belgique.
Oui, tout à fait. Et derrière Juliana, qu'on, je salue aussi, il y a la figure de Pauline, sa femme, qui est décédée sans avoir pu véritablement faire le deuil de son mari, puisque aucun reste humain n'était disponible pour faire les rites liés au deuil. Et donc ça a duré pendant plusieurs décennies, et c'est en 2020 que Juliana Lumumba s'est exprimée en écrivant au roi des Belges, justement à ce sujet, pour réclamer une restitution. Suite au mouvement Black Lives Matter, qui a évidemment beaucoup cristallisé ces questions de restitution des objets, des restes humains, mais aussi la question du déboulonnement des statues coloniales. Mais véritablement, ce qui était intéressant là, c'était de voir comment cette demande de restitution a pris du temps. Elle a quand même pris 3 ans.
Énormément de temps.
Oui. Il a fallu attendre. Bon, alors évidemment, il y a eu cette question, 2 ans plutôt. Il y a eu cette question du Covid, hein, qui a aussi évidemment beaucoup ralenti les choses. Mais ça n'a pas été simple, hein, ça n'a pas été évident. Et puis, ce qui est surtout frappant, c'est de voir comment cette restitution, avec une cérémonie qui a été organisée le 30 juin 2022, vous avez en exergue de cette émission ouvert avec le fameux discours du 30 juin 1960. Ça reste évidemment un moment très fort dans l'histoire de la décolonisation et des indépendances, hein, pas seulement en RDC actuelle, mais justement cette restitution, elle est restée un événement assez peu médiatisé, ce qui
et
est paradoxal.
Pas international pour
voilà,
le coup.
Tout à fait.
Et comment vous l'expliquez ?
Mais écoutez, moi je l'explique, alors ça sera très personnel comme explication, hein, c'est que je pense que, en fait, l'histoire de Lumumba, l'histoire entre les Belges et la RDC actuelle et le Congo belge, reste une histoire bilatérale pour les Belges et pour beaucoup. C'est-à-dire que c'est très compliqué de rentrer dans ce champ d'analyse et que finalement, ça reste une histoire bilatérale, métropole-colonie, nouvelle puissance africaine, la RDC avec puissance ex-coloniale, et que dans ce jeu, finalement, d'échange, il y a peu de place pour qu'il y ait des spécialistes ou où il y ait un entrisme qui puisse se faire sur ces sujets. On sent que chacun est attaché à son ex-colonie. Et Lumumba, quelque part, reste une figure relativement couvée par les Belges et notamment par les chercheurs belges.
Alors, en revanche, on peut parler des héritières et des héritiers politiques du lumumbisme. De votre point de vue, Karine Ramondi, quel serait le mouvement, l'association, le parti politique contemporain de la RDC qui représenterait le mieux cet héritage ?
Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un mouvement qu'il ne faut surtout pas oublier aujourd'hui en RDC, qui est le mouvement citoyen de la Lucha, qui veut dire la lutte pour le changement, qui a été créé en 2012 à Goma, hein, en réaction à la décennie qui venait de s'achever de violence dans l'est du Congo. C'est un mouvement citoyen qui se réclame de la paix dans un pays où aujourd'hui toutes les questions politiques se règlent par la violence, et qui a pour objectif justement de retrouver la paix, l'unité, de favoriser des actions citoyennes sur le terrain, l'éducation, la scolarisation, tout un tas de choses qui semblent aujourd'hui ne pas être des préoccupations majeures, en tous les cas par le gouvernement politique, et donc qui a véritablement vocation à peut-être pas se réclamer directement du Lumumbisme, mais en tous les cas à s'approprier ce que la figure de Lumumba est devenue.
Donc développer le pacifisme, l'anticorruption, la paix et l'unité, vous l'avez rappelé Karine Ramonti. Est-ce que par exemple le prix Nobel de la paix, le docteur Mukwege, se réclame d'une certaine façon de Lumumba ?
Alors, je n'ai pas entendu Mukwege se revendiquer le nom de Patrice Lumumba, mais je pense que si on s'étend et on va au-delà et on parle de la jeunesse congolaise, oui, le nom de Lumumba reste une référence. Il représente justement cette lutte contre la corruption, cette éthique, ces positions d'incorruptibilité. Et je l'entends également dans la bouche de la jeunesse, de la diaspora congolaise. Paris, enfin à Paris, il y a eu pas mal de manifestations pour alerter sur ce qui se passe à l'est du Congo. Et le nom de Lumumba revient très souvent.
Oui. Dans les manifestations, justement, effectivement, on le voit sur les pancartes. Oui. C'est aussi un nom slogan, au fond. Et puis, lorsqu'on parle d'héritage, on a parlé beaucoup politique dans cette émission, mais il y a bien sûr toute la transmission à travers les arts, que ce soit les peintres, que ce soit les musiciens, les chanteurs et les rappeurs. Musique urbaine, notamment dans le rap américain dès les années 1990. Vous nous avez signalé le groupe X-Clan dans ce titre, Raise the Flag. No justice, no peace. Osiris, Oasis, Patrice Lumumba, Malcolm X, Marcus Garvey, Sonny Carson, The Black Watch, Sissy. Sissy. Le groupe de rap X-Clan, je trouve que le rap des années 90 était quand même assez excellent. Merci Elisabeth Dikizeko. Donc, nos justices, nos peace, pas de justice, pas de paix. Et on entend associer les noms de Patrice Lumumba, de Malcolm X, de Marcus Garvey. Donc, on n'a pas encore parlé. On peut peut-être dire un mot sur qui était Marcus Garvey.
Oui, Marcus Garvey, c'est une figure très importante de l'histoire du panafricanisme. C'est un Jamaïcain qui va s'établir donc à Harlem, à New York, pendant l'entre-deux-guerres et qui va développer, selon les historiens du panafricanisme, le plus grand mouvement panafricaniste de cette époque-là et qui n'est d'ailleurs jamais eu. J'en profite juste pour faire un clin d'œil au magnifique ouvrage édité par Mathias de Groof, Lumumba in the Hearts, parce que c'est dans cet ouvrage-là que j'ai trouvé donc cette référence. Du groupe X-Clan. En tant qu'historienne, je suis obligée de pointer le fait que ce morceau, Raise the Flag, sort en 1990. Et l'année 90, c'est une décennie très importante, puisque c'est le moment où le réalisateur haïtien Raoul Peck va donc produire un film documentaire autour de Patrice Lumumba. Et ce film, ainsi que son biopic qui va arriver après, en 2000, va vraiment participer à l'iconification de Patrice Lumumba, qui va vraiment l'inscrire à travers donc des moyens de diffusion très larges, la figure de Patrice Lumumba. Et donc, c'est certainement pas anodin si ce groupe, en 1990, va parler de Patrice Lumumba et l'associer à des figures qui sont plus proches pour les Afro-Américains, c'est-à-dire Malcolm X et Marcus Garvey, qui sont des figures, comme j'ai dit, de la radicalité politique noire, de la défense noire, de ces idées d'émancipation.
C'est pas hasard, si vous citez Martin Luther King, ce mouvement de radicalisation est né justement au moment où Martin Luther King est assassiné. Alors, on a envie aussi d'écouter ensemble un dernier rap, grâce au choix d'Elisabeth. C'est le réalisateur Alain Cassanda, auteur notamment du documentaire Colette et Justin. Et dans ce film, Alain Cassanda, vous le citiez tout à l'heure, fait un voyage au fond dans l'histoire familiale, celle de ses parents, puisque son père Justin a participé à ce mouvement pour l'indépendance. Et il croit son récit familial au fond avec la grande histoire de la décolonisation du Congo. Donc avant d'être réalisateur de documentaire, Alain Kassanda, lui aussi, a été rappeur avec un autre nom, Abkas. Et vous avez choisi ce titre, L'incorruptible est mort à Kinshasa.
Quelque part le long du boulevard Patrice Lumumba. Bénévole malgré lui, ce militaire n'a pas perçu sa solde depuis des mois. Alors il se débrouille, vit de magouilles et autres extorsions de fonds. Son arme et son gagne-pain. S'il la perd, il meurt de faim, touche le fond. Le fond, il l'a touché il y a quelques mois, en continuant d'espérer qu'un jour, l'État le paierait. Mais les heures paraissent des jours quand la faim vous tiraille, et les jours des années quand les enfants braillent. Alors il s'est résigné à faire comme le policier, le juge, et donc à embrasser le système D. Tous les jours, il se poste au feu rouge, guette la Mercedes et la braque, traque la moindre faille, invente des irrégularités, peinture non conforme ou carte bleue périmée. Toutes les raisons sont bonnes à saisir pour justifier la lourde amende qu'il inflige sans pitié. Le paiement s'effectue en liquide sur le champ, égare à tous ceux qui n'auraient pas d'argent, car l'État a démissionné depuis longtemps, abandonné le peuple à sa misère. On erre, on se débrouille, à chaque jour suffit sa peine. Le lendemain, Dieu seul sait. Sous le règne du système D, l'État a démissionné depuis longtemps, abandonné le peuple à sa misère. Et comme la fin justifie les moyens, l'incorruptible est mort. L'argent est là, mais on ne le voit jamais. On ne voit que les grosses voitures des ministres, leurs belles femmes et leurs grands palais. Les routes sont détruites, les enfants ont faim d'avenir et de pain, et non de ces maudits pots de vin qui gangrènent les esprits et corrompent l'incorruptible. Cet homme qui place l'intérêt collectif avant le sien, mais ici, ce type-là passerait pour un saint, car ici, tout s'achète du diplôme au scrutin. Convaincre un homme de voter pour toi est enfantin. Un bon repas et tu sais ce qu'il fera de son butin de vote. Ici, on parle comme Tiken de manger crassi. L'élite s'enlise dans une parodie de démocratie, alors que le peuple est au bord de l'asphyxie. J'ai vu un étudiant brillant diplômé en droit vendre des beignets pour arrondir ses fins de mois. Ou encore un juge qui a connu la faim, mal payé malgré tout son règne était de mettre fin à cette corruption pandémique qui s'étend de l'élite. À la base, le règne du passe-bras où ton argent te donne tous les droits. Tout s'achète, même la morale. Car l'État a démissionné, depuis longtemps abandonné le peuple à sa misère. On erre, on se débrouille, à chaque jour suffit sa peine. Le lendemain, Dieu seul sait. Sous le règne du système B, l'État a démissionné, depuis longtemps abandonné le peuple à sa misère. Et comme la fin justifie les moyens, l'incorruptible est mort.
L'incorruptible est mort à Kinshasa, mais l'image et le nom de Lumumba sont bien vivants, comme vous pourrez le lire dans le dossier global Lumumba proposé sur Internet. C'est gratuit par la Revue de l'Histoire Contemporaine de l'Afrique. Le lien est à votre disposition sur la page de la Marche du Monde sur RFI.fr. Merci beaucoup. Karine, Elisabeth, et merci beaucoup et bravo pour votre dossier Global Lumumba.
Merci beaucoup. Merci, on voudrait aussi remercier tous les auteurs et autrices qui ont contribué à ce numéro et que vous aurez sûrement le plaisir de découvrir en ligne, gratuitement comme vous venez de le dire. Ça n'a pas de prix.
Global Lumumba, c'est un nouvel épisode filmé de la Marche du Monde à retrouver sur la chaîne YouTube de RFI, sur notre site RFI.fr. Vous pouvez aussi aller sur notre appli RFI Pure Radio, une émission signée Valérie Nivelon, Sophie Janin et Adrien Tournant pour les moyens vidéo. Faites du bruit sur les réseaux sociaux, partagez cette émission, c'est la vôtre.
L'incorruptible est mort. L'incorruptible est mort. L'incorruptible est mort. L'incorruptible est mort à Kinshasa.